It's Morning Edition from NPR News.
Let's see things on people housing.
France Inter, le 18-20.
Quand l'Allemagne nous fait le coup de la révolution culturelle, voilà qu'Angela Merkel met fin à un tabou. Elle a accepté le principe de la mutualisation d'une dette de 500 milliards qui devrait aider les pays européens les plus touchés par la crise. L'Europe enfin solidaire, le couple franco-allemand qui donne l'exemple. On y met quand même des points d'interrogation. On verra ensemble tout ça dans un instant. En 18h45, le virus sur la carte part en safari en Afrique du Sud avec des animaux, mais pas de touristes et pas n'importe quels animaux d'ailleurs. Je vous conseille d'écouter. Vous ferez connaissance aussi avec Nal qui a réussi à quitter Paris pour rentrer chez elle en Corée du Sud juste avant le confinement. Elle a confié son journal sonore à Caroline Gillet. Puis 18h56, le monde d'après de Jean-Marc Four. Ou comment les mouvements sociaux déconfinent en même temps que les villes. Pour l'instant, on a que 100 km devant nous, c'est pas beaucoup. Je vous emmène bien plus loin. Bonsoir.
Fabienne Saint-Pès. Un jour dans le monde.
Et bonsoir, Hans Stark.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI, vous êtes professeur de civilisation allemande à Sorbonne Université. Je vous salue également Fabienne Keller. Bonsoir Madame Keller.
Bonsoir.
Députée européenne Renew Europe et vous êtes évidemment l'ex-maire de Strasbourg. Hans Stark, je vais commencer par vous, j'allais dire honneur à ce côté-là du Rhin. Révolution culturelle, on lit partout même qu'un tabou est tombé. Est-ce que c'est le mot que vous emploieriez vous aussi après ce couple franco-allemand et ces fameux 500 milliards?
Bah, c'est un terme chinois, je crois, la révolution culturelle.
Donc, oui, c'est vrai.
Je préfère parler d'un virage de 180 degrés, ce qui revient à peu près au même, en ce qui concerne la position allemande. Donc, c'est un vrai pas en avant et on peut le qualifier, je pense aussi, de première grande initiative franco-allemande depuis que nous avons le couple Macron-Merkel.
Alors, on va y venir. Est-ce qu'elle retourne sa veste au fond, Angela Merkel, je vais le dire comme ça, ou est-ce qu'elle a senti le vent tourner et s'est dit je peux pas reculer, donc très bien j'y vais, même si pour moi c'est contre-culture.
Alors, elle ne tourne pas sa veste. Je pense que le terrain a été labouré depuis maintenant quelques semaines déjà, parce que sa première réaction fin mars à la détresse des Italiens a été critiquée en Allemagne par la plupart des grands journaux qui lui ont reproché ce manque d'empathie face à la souffrance de nos voisins italiens, espagnols, français et autres. L'Allemagne a un peu rectifié le tir en prenant en charge des malades atteints du Covid-19, mais c'était très insuffisant du point de vue économique et financier. Et y compris les économistes parmi les plus orthodoxes outre-Rhin ont estimé que le moment était venu de faire autre chose et d'aller au-delà de la logique un peu d'austérité et de liée à des crédits que l'Italie ne va plus tellement assumer, d'après ce qu'on entend, de Rome. Donc il était temps de faire autre chose.
Fabienne Keller, vous réclamiez-vous un plan Marshall? Est-ce que vous considérez que vous l'avez?
Écoutez, c'est une formidable avancée que cette déclaration commune d'Angela Merkel et de la chancelière et du président français, mais elle est en ligne avec la résolution votée à une très large majorité, plus de 500 voix, vendredi dernier par le Parlement européen. D'ailleurs, le parti même d'Angela Merkel, hein, les CDU, ont voté tous ce grand plan ambitieux. Et puis, l'Allemagne est réaliste aussi. Vous savez, son premier marché, c'est le marché intérieur. Il faut que tous les pays européens se portent bien si on veut que la reprise fonctionne effectivement, pour qu'on arrive à dépasser rapidement cette crise. Donc c'est aussi l'intérêt économique de l'Allemagne, hein, que tous les pays européens se redressent très vite et qu'ainsi les marchés de chaque pays, donc le marché européen, reprennent des couleurs.
Je vous pose la question, Fabienne Keller, et je la poserai d'ailleurs aussi à Hans Stark. Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'on a frisé la correctionnelle en Europe, qu'on a failli perdre ce que nous avions, perdre l'essence de ce qu'était l'Europe? Est-ce que c'est ça aussi le sens de cette mesure?
Alors, je serais plutôt philosophe. L'Europe a toujours fait des bons à l'occasion des crises. Parce que les crises, c'est l'occasion de prendre conscience qu'ensemble, on est plus fort. On peut faire face avec beaucoup plus d'efficacité, de manière solidaire. Donc ce plan, il fait face à la crise du Covid, mais il marque aussi des ambitions. Il y a une volonté industrielle de réindustrialiser. Il est apparu pendant la crise très clairement que c'était une catastrophe pour les médicaments, qu'on n'avait plus du tout de maîtrise de la production des principes actifs. C'est indispensable. De la même manière pour le numérique, parce que tous les outils numériques qu'on utilise dans le confinement, les outils évoqués pour les applications de traçage, eh ben zut, il n'y en a pas d'européens. Donc c'est l'occasion aussi d'avancer sur des sujets révélés dans cette situation particulière.
Une souveraineté européenne, une Europe de la santé, on va y venir. Hans Stark, au début de cette crise, on a vu les fermetures de frontières qui ont été désordonnées, on a vu les blocages d'exportation de produits médicaux, on a vu l'incapacité à s'entendre, on a vu le manque de solidarité, on l'évoquait à l'instant avec l'Italie. Est-ce qu'au fond, il y a ça aussi chez Angela Merkel, une manière de se dire, pour sauver l'Europe, telle qu'on la connaît aujourd'hui, je vais devoir faire ça aussi et donner cet exemple-là? Est-ce qu'au fond, derrière sa tête, il y a ça? On est en train de mettre l'Europe en péril ou pas?
Je pense que d'abord, tous les États étaient très mal préparés à la crise sanitaire au mois de mars. On avait peut-être aussi sous-estimé à un moment donné. Et les premières réactions, bon, la politique de la santé, ça relève du domaine national. Mmh. Et donc, chaque État, évidemment, dans un premier temps, agit seul. Donc aujourd'hui, ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, ce plan Marshall ne s'adresse pas aux conséquences de la crise sanitaire sur le plan de la santé, mais à son impact économique sur l'emploi, sur la survie de nos entreprises et ce qu'a dit Mme Keller sur la survie du marché unique, qui est vraiment le pilier central de la construction européenne. Et donc nous avons tous un intérêt absolument majeur à maintenir ce marché unique qui, je fais une parenthèse, explique d'ailleurs aussi la cohésion de l'Union européenne face à la Grande-Bretagne depuis trois ans. Parce que s'il y a une chose qu'on ne veut pas sacrifier, c'est le marché unique.
Mais il y a un effet déclencheur quand même. Il y a eu un effet déclencheur, c'est la Cour constitutionnelle et Karlsruhe, c'était il y a quelques jours. Karlsruhe qui se dresse en gros devant la BCE. Est-ce que Merkel est contrainte par la BCE ou est-ce qu'elle se sort du piège qui lui a été tendu par la Cour constitutionnelle? Ça se passe dans quel sens?
Alors si je peux répondre, justement, il y a deux façons de répondre aux défis économiques sur le plan financier. Soit par la BCE, c'est-à-dire par l'outil monétaire, ou bien par l'outil budgétaire qui relève de la Commission. Et là, on a choisi justement la Commission comme étant l'enceinte par le biais de laquelle on va mettre en place ce plan de relance. Donc, il ne s'agit pas d'acheter des obligations d'État ou de monétiser des dettes publiques. Il s'agit de financer par les subventions, certes, mais de financer par le biais de la Commission européenne une vaste politique de relance économique. Donc, l'outil devenu budgétaire, il n'est plus forcément uniquement monétaire. Et ça, c'était très important.
Mais Macron prend le soin, vous l'avez noté comme moi, j'imagine, de ne pas dire corona-bande, de ne pas dire euro-bande. Et tel qu'on le décrit aujourd'hui, on prend pas l'argent sur le budget de chaque État, mais on prend de l'argent emprunté par la Commission. Donc, je vais le dire comme ça, c'est de l'argent européen. Est-ce qu'au fond, et y compris aux yeux de l'opinion allemande d'ailleurs, c'est indolore d'une certaine façon?
Alors, c'est indolore, non, parce que chaque État, finalement, va contribuer à cet effort de 500 milliards à hauteur de sa contribution au budget européen. L'Allemagne assure à peu près 27% du budget européen, qui est de 135 milliards environ, et ben, elle va être à hauteur de 27% pour ce plan de 500 milliards. La France sera c'est la même chose, elle assure à peu près 22 milliards d'euros du budget européen, là encore, de 135 milliards, ce qui veut dire à peu près, grosso modo, 15%. Et ben, la France va contribuer à hauteur de 15% à ce plan de relance.
Alors, Fabienne Keller, il évoquait la Commission à l'instant, Hans Stark, la Commission européenne qui a déjà dit qu'elle va panacher, en fait, entre subvention et prêt. Il y a une grande réunion qui est prévue pour le 27 mai prochain. Est-ce que ce panachage peut vous convenir? Est-ce qu'on peut discuter sur le fond du panachage? Comment ça se passe?
Alors en fait, il y a déjà eu des décisions prises il y a déjà plusieurs semaines sur la dette. 100 millions sont consacrés à aider les pays qui n'ont pas de système de filet social ni de chômage partiel. C'est ce qu'on appelle le programme Chour. 200 milliards sont consacrés au soutien aux États membres pour refinancer les soutiens aux entreprises. Chaque pays a mis en place des soutiens à court terme pour maintenir les entreprises. Il y a le mécanisme européen de stabilité, là c'est 240 milliards, donc ça fait un total de 500, qui est à l'œuvre. C'est le mécanisme qui a été inventé au lendemain de la crise de 2008 pour pouvoir réagir à la crise suivante. Il est opérationnel. Bref, on va additionner de la dette, du refinancement au niveau européen et du cash. Et cette subvention, ce budget, il est nécessaire parce qu'en fait, tout le monde monde est en difficulté. Les acteurs économiques, les associations, les administrations, hein, les communes, les régions, les départements, les landes en Allemagne, et le secteur financier aussi, les banques et les assurances. Donc il ne faut pas attendre d'effet de levier d'un autre secteur économique. C'est fondamental que l'Union européenne injecte du cash au moment où l'économie européenne en a besoin. C'était le principe du plan Marshall, c'était le principe du plan ouvert aux États-Unis. C'est la bonne méthode, agir vite et fort pour que l'économie reparte rapidement.
Mais en même temps, ce que dit Ursula von der Leyen quand elle parle de panacher subventions et prêts, Fabienne Keller, c'est aussi en creux la question qu'elle pose, c'est qui va rembourser quoi, qui va payer quoi et qui va rembourser quoi. Donc est-ce que vous avez le sentiment qu'il faudra la convaincre là aussi, bon, on va parler des autres pays après, mais convaincre la Commission, notamment sur le mécanisme, comme vous dites, en effet, et qui, encore une fois, sont ceux qui vont devoir rembourser, qui va devoir rembourser, est-ce qu'il y aura des remboursements. Est-ce qu'on a cette mécanique-là déjà ?
Alors, le mécanisme de détail n'est pas encore arrêté. Par contre, les principes, M. Stark vient de les présenter, c'est que ce sera solidairement les États membres et en gros dans les proportions actuelles de leur part du financement européen. Mais c'est un sujet dynamique. Si l'économie repart rapidement, alors il y aura des recettes fiscales. Alors les salaires seront payés, la consommation sera bonne. On sera dans un cercle vertueux de reprise économique rapide et la crise ne sera plus rapidement qu'un mauvais souvenir et donc on trouvera les moyens de rembourser.
Pardon,
du financement à ce moment-là de la crise, si vous voulez.
Je vous pose la question.
Quand on est au plus bas.
Parce que certains pays, notamment les pays du Sud, je pense par exemple au Premier ministre portugais aujourd'hui, qui dit qu'évidemment cette proposition l'intéresse, qu'elle mérite encore d'être travaillée, comme le disent une bonne partie des pays du Sud, mais qui pose quand même la question. Comment ces fonds vont être répartis parmi les différents États membres, par exemple ?
Alors il est clairement indiqué dans la déclaration franco-allemande que ce seront les pays les plus touchés par la crise. Alors, sous quel angle, avec quel instrument de mesure, cela mérite d'être affiné. Mais son inquiétude, je pense, puisque le Portugal n'est pas très touché par le Covid, par contre,
mais par la crise économique.
Oui. Voilà, et par une situation financière de départ qui est pas très bonne, c'est de ne pas se retrouver dans la situation de la Grèce en 2008, enfin pendant sa propre crise, c'est-à-dire d'être très sollicité après pour le remboursement. C'est vraiment un principe de solidarité. D'ailleurs, la question des nouvelles ressources est évoquée aussi dans cet accord entre la France et l'Allemagne, en particulier le mécanisme d'inclusion carbone aux frontières, qui est un mécanisme de rééquilibrage pour prendre en compte la différentielle de coût entre ce qu'on produit à l'intérieur de l'Union européenne, où on a des règles environnementales très rigoureuses, et ce qu'on importe de l'extérieur, parfois de pays qui n'appliquent aucune règle. C'est ça aussi un engagement fort de cet accord, la dimension environnementale de cette reprise, le développement durable. On peut rappeler au passage que le changement climatique, c'est un des facteurs favorable à l'émergence de nouvelles pandémies. Donc c'est important pour l'environnement et c'est important aussi pour éviter une nouvelle crise épidémique.
Alors, je vous reposerai la question après, Fabienne Keller, Hans Stark, maintenant il y a un gros travail quand même devant, je pense aux Pays-Bas, je pense au Danemark, je pense à la Suède, je pense à l'Autriche. Qu'est-ce qu'on dit à ces quatre pays-là? Comment on les embarque? Et au fond, qu'est-ce que vaudra ce moment franco-allemand si on n'arrive pas à embarquer tout le monde derrière soi?
C'est évidemment tout l'enjeu. Le franco-allemand ne suffit pas. Il faut, comme vous dites, embarquer les autres partenaires. C'est la raison pour laquelle il était important d'ancrer cette aide dans le travail de la Commission européenne. Ça, c'était essentiel. Mmh. Et deuxièmement, de le lier au plan déjà présenté par la Commission et l'Eurogroupe le 9 avril dernier, dont a parlé Madame Keller. Donc, en réalité, nous avons affaire non pas à 500 milliards, mais à plus de 1000 milliards, plus d'un billion d'euros, mais financés sur le plan d'un panachage, comme on en a dit tout à l'heure, car la première tranche de cette aide, les 540 milliards milliards prévus le 9 avril étaient, eux, garantis par le biais des crédits et non pas par le biais des subventions. C'est la raison pour laquelle il y a ce panachage. Et je pense que ce panachage, ce caractère panaché sera important pour convaincre justement les pays du Nord qui sont liés dans une structure qu'on appelle le groupe, le nouveau groupe de la ONZ, dont l'Allemagne ne fait pas partie, mais dont elle est géographiquement et même, je dirais, philosophiquement proche. Et il faut les convaincre. Et donc le travail, bon, il consiste à le faire et à le faire comprendre à tout le monde que les enjeux sont tels aujourd'hui en termes de survie de notre économie européenne, en termes de notre autonomie vis-à-vis de la Chine, en termes aussi de la survie même de la zone euro à terme, eh ben qu'il faut sortir la bazooka, comme on disait autrefois à propos de la Banque Centrale Européenne. Donc il faut vraiment sortir les gros moyens. Et si on échoue maintenant à ce niveau-là, ça serait terrible.
Alors c'est une question de principe, pas seulement une question de principe chez ces pays-là. Ce sont aussi des pays, je pense particulièrement à la Suède ou au Danemark, qui ont même pour certains, la Suède particulièrement d'ailleurs, choisi une autre forme de lutte contre ce virus. C'est le cas d'un pays comme l'Autriche qui lui a déconfiné bien en amont par rapport aux autres. On a l'impression que la séparation se fait aussi avec ceux qui ont anticipé différemment par rapport aux pays du Sud. Hans Stark, pardon.
Oui, alors l'Autriche est évidemment a peut-être un peu mieux géré la crise sanitaire dans un premier temps, mais en même temps c'était un des foyers d'infection important parce que beaucoup de touristes qui sont partis en vacances à ski se sont infectés en étant en Autriche, faut pas l'oublier. Et puis l'Autriche a quand même une frontière commune avec l'Italie, donc son voisin est le plus impacté et l'Italie du Nord est proche de l'Autriche. Donc je pense qu'il y a aussi une dimension italo-autrichienne quelque part, dont il faudra tenir compte et Vienne ne peut pas complètement se détourner de son voisin immédiat Rome en poursuivant une politique que je qualifierais franchement d'égoïste. Donc il faut maintenant donner du temps au temps. Évidemment, un chancelier comme Sébastien Kurz peut se sentir un tout petit peu délaissé par Paris et Berlin parce qu'on ne l'a pas directement associé aux négociations. Donc il y a évidemment de la sensibilité, les gens sont rapidement vexés, etc. Maintenant, il faut montrer que dans les discussions qui viennent que tous les pays sont importants, les grands comme les petits, et qu'il faut donc trouver un compromis d'ensemble. Ce sera peut-être pas quelque chose d'identique au plan franco-allemand d'hier, mais il faudra évidemment que ce soit quelque chose de très proche.
Mais qu'est-ce que, Fabienne Keller, qu'est-ce que vous dites, vous, à un collègue suédois que vous croisez dans les couloirs à Strasbourg ou à Bruxelles, ou à un Danois, à un Hollandais, qu'est-ce que vous lui dites?
Alors d'abord, s'il fait partie du groupe socialiste, du groupe des Verts, du groupe Renew, dans lequel je suis, ou du groupe PPE, Parti Populaire, il a voté pour la résolution européenne. Donc il a dit oui à un plan de relance et de reconstruction ambitieux. Il a dit que c'était le moment pour l'Union européenne d'épauler les concitoyens, les entreprises, l'ensemble des structures publiques pour faire ce rebond. Donc si vous voulez, en termes politiques, il y a bien un support. Le Parlement européen vient d'être élu il y a un an. En général, c'est dans tous les États membres, c'est de manière proportionnelle. Donc il est très représentatif des peuples. Donc les peuples ont clairement dit, et le Parlement européen s'est exprimé fortement là-dessus vendredi.
Et ce sont aussi des pays qui disent « je ne finance pas à fond perdu des pays qui n'ont pas su s'y prendre ». Je caricature un peu, mais pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on leur dit là ?
Ils ne financent pas à fond perdu. Quand on parle de l'Autriche, elle est très en prise économique avec les pays de l'Est, les nouveaux États membres. Ceux-là sont très aidés par le programme Schur, donc ce programme qui garantit des revenus minimums pendant cette période de confinement qui a pénalisé les économies. Donc ça veut dire que le marché dont ils profitent en tant qu'industrie autrichienne est très soutenu par l'Union européenne. C'est pour ça qu'il faut un ensemble de mesures. Là, c'est un exemple concret, mais chaque pays, en fait, tire parti de dispositifs. C'est pour ça qu'il y a une mosaïque de dispositifs qui ont été ajoutés. Et puis, quand même, ce sont des pays très conscients de la puissance que leur donne l'Europe par rapport à la taille de leur pays pris isolément. Et s'ils ont demandé à un moment donné, c'est des pays qui sont entrés plus récemment, c'est pas des pays fondateurs dans l'Union européenne, c'est bien pour bénéficier de cette dynamique économique, mais aussi de cette protection, de cette dimension culturelle, d'échange éducatif, enfin, de ce projet de vie. Et ça, aujourd'hui, c'est très largement porté en Suède par le gouvernement, au Danemark, et même le chancelier autrichien, qui a certains aspects très populistes, est néanmoins conscient de cette puissance européenne européenne à laquelle il a besoin de s'arrimer.
Et en même temps, on peut entendre Hans Stark, on peut imaginer des remarques qui diraient « Attendez, le couple franco-allemand, c'est une chose ». On a bien vu d'ailleurs que ce couple voulait se mettre en avant à ce moment-là, l'a fait de manière extrêmement structurée, avec une annonce presque surprise et aussi symbole. Mais le couple franco-allemand n'est pas la totalité de l'Europe. C'est aussi ça que répondent ces pays qui, pour l'instant, freinent encore.
Ben c'est pour ça qu'il faut justement les associer. Et ce sera le travail qui va être fait dans les semaines qui viennent. Nous avons évoqué tout à l'heure la position des pays de l'Est, par exemple. Les pays de l'Est bon, sont moins touchés par le coronavirus, heureusement pour eux. Mais je pense que le problème du tourisme les touche aussi cette année. Donc ils vont avoir des conséquences économiques moindres, mais néanmoins sensibles. Et évidemment, ils voudraient avoir leur part du gâteau, si j'ose dire. Donc on pourra sans doute les convaincre de la nécessité d'approuver ce plan en faisant en sorte que tout n'aille pas uniquement vers l'Italie, l'Espagne, peut-être la Grèce, mais une partie aussi vers l'Europe centrale et orientale. Donc il faut, je pense, une solidarité d'ensemble, il faut les inclure. D'ailleurs, ce qui s'appelait pourrait éventuellement nous aider aussi à surmonter un peu les problèmes que nous avons face à la Hongrie et à la Pologne par rapport aux problèmes de souveraineté au niveau de leur gouvernement sur place. C'est un ensemble. Donc je pense que avec du tact, avec de la sensibilité et avec aussi une prise en considération des problèmes économiques qui existent aujourd'hui en Europe de l'Est, le couple franco-allemand doit et doit trouver des alliés dans cette affaire. Il ne faut pas qu'il reste seul.
Ce qui est aussi une manière, au fond, de remettre les choses à plat, non, vis-à-vis d'ailleurs des pays dont vous parlez à l'instant, des pays de l'Est. On est entré dans cette crise du Covid avec des relations avec la Hongrie, avec la Pologne, avec tous ces pays qui étaient quand même des relations difficiles. Est-ce que, du coup, c'est l'occasion de remettre tout ça à plat, selon vous ?
Ben je le pense, mais enfin c'est pas gagné d'avance parce que les mesures prises par la Hongrie relèvent quand même d'un certain autoritarisme et puis reste aussi la question des élections en Pologne qui ont posé problème au mois de mai, qui sont maintenant de nouveau relancées. Donc on n'est pas sorti de cette discussion et nous avons par-dessus cela la douche froide de l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe qui a évidemment soutenu quelque part les positions de la Pologne et de la Hongrie vis-à-vis de la Cour de justice européenne. Donc tout ça est aujourd'hui sur la table. On peut presque s'en réjouir parce que ça veut dire que nous avons enfin un vrai débat européen sur beaucoup de choses, sur la solidarité, sur l'aide économique, mais aussi sur le degré d'intégration que nous voulons avoir. C'est une bonne chose parce que je pense que nos citoyens aujourd'hui, ce qu'ils veulent aussi, c'est débattre des affaires européennes et non pas laisser ça aux seuls experts et à la seule élite bruxelloise.
Fabienne Keller, c'est quoi une Europe de la santé? Parce que ça fait aussi partie des points qu'on a entendus dans ce duo Angela Merkel et Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire que la santé, vous l'avez rappelé, qui est dans le giron de chacun des États, doit désormais rentrer dans un pot européen d'une certaine façon?
Oui, c'est une volonté de porter une politique de santé partagée qui ne se substitue pas à celle des États membres, mais qui assure une coordination. On a bien vu que l'épidémie ne connaissait pas les frontières, être plus coordonné et faire monter en puissance. Hein. On a une structure qui s'appelle le Centre de contrôle des épidémies européen, le faire monter en puissance, avoir des normes, des référentiels communs. On a vu qu'on comptait pas pareil, hein, les lits de réanimation, que les protocoles médicaux étaient pas totalement harmonisés. Il y a un paradoxe d'ailleurs, alors que nous nous faisons tous soigner gratuitement, hein, aux mêmes conditions qu'en France, dans n'importe quel État européen, que les médicaments aujourd'hui sont agréés de manière commune. Donc partons de ce constat de cette faiblesse pour en faire une force. Et si vous le rajoutez à la dimension industrielle du plan de relance dans le domaine pharmaceutique, voilà, ça fait une vision dans le domaine de la santé qui est stratégique. C'est l'une des grandes forces de l'Union européenne. Quand on voit la catastrophe en termes de santé aux États-Unis, hein, le Covid qui atteint les populations pauvres et qui n'ont pas de couverture santé, on voit quand même c'est la dignité de l'Union européenne que de protéger la santé des concitoyens, mais on peut encore l'améliorer et c'est le sens de cette proposition.
Et vous n'avez pas fini, donc le prochain grand rendez-vous ce sera la Commission, c'est le 27, il y en aura d'autres. Évidemment, je vous remercie beaucoup Hans Stark et Fabienne Keller d'avoir été avec nous ce soir.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe en Afrique du Sud. Je vous emmène en safari avec des animaux autant que vous en voulez, mais pas de touristes. Et donc, un gros manque à gagner. Nal est coréenne. Elle a pu rentrer dans son pays avant le confinement. Elle raconte à Caroline Gillet son retour. Vous entendrez son journal sonore. Et puis, Jean-Marc Four pense au monde d'après. Il a regardé de près les mouvements sociaux étouffés par la pandémie qui sortent à la faveur des déconfinements. À tout de suite, tout le monde. Voici Marker Starling sur France Inter. Waiting for Grace. Waiting for Grace sur France Inter. Le virus sur la carte plante son épingle ce soir en Afrique du Sud. Ce pays du continent africain, le plus touché avec 286 morts à ce jour. En Afrique du Sud, on déconfine doucement pour permettre à l'économie de redémarrer. Le taux de chômage déjà était de plus de 30% et parmi les secteurs les plus touchés, le tourisme. C'est là que je vous emmène. Écoutez bien, nous sommes dans un parc et nous sommes normalement en pleine saison des safaris dans la région du Limpopo, tout au nord. Les touristes cette année ne sont pas là, les animaux oui. Écoutez ce que nous raconte Claire Bargelès.
Ça fait une vingtaine de minutes que l'on parcourt le bush de la réserve privée de Marataba avec la guide Hélène Martens. Quand soudain, à un carrefour, le 4x4 se retrouve nez à nez avec un éléphant.
Voilà, il faut juste rester calme. Si jamais il se rapproche un peu, il va peut-être un peu tester les limites.
Et là, il est encore très calme. Il n'a encore montré aucun signe d'agressivité, rien du tout.
Cette rencontre impressionnante, Hélène aurait aimé la partager avec les visiteurs habituels de la réserve. Mais depuis le début de l'épidémie, ces 23 000 hectares sont totalement fermés au public. L'équipe de guides s'est donc lancée dans la production de safaris virtuels pour continuer à cultiver l'intérêt des futurs visiteurs.
C'est ce qu'on essaie de faire pour garder la réserve active et pour tous nos touristes passés et futurs. À peu près tous les jours, on essaie de filmer quelque chose d'intéressant. Pour rester actif, on aimerait travailler, quoi. Et puis forcément, financièrement, c'est pas facile non plus pour nous tous.
Sur le bord de la route, une forme se fige avant d'aller se réfugier dans les buissons. On la retrouve quelques mètres plus loin.
C'est un pangolin. Un animal absolument incroyable, c'est un mammifère, mais avec des écailles. C'est littéralement l'animal le plus braconné au monde, c'est un animal hyper spécial. Apparemment, c'est les soupes qui sont faites qui ont mené au coronavirus. C'est une théorie, hein. Franchement, je ne sais pas si c'est prouvé encore.
Les chercheurs étudient en effet le rôle qu'a pu jouer le mammifère dans la transmission du virus en Chine, sans avoir pour l'instant de réponse précise. Mais les responsables du parc s'inquiètent du braconnage d'une autre cible de choix, les rhinocéros. Depuis le début du confinement, au moins 9 d'entre eux ont été tués dans le pays. Cornu Ricart est le directeur financier de la réserve.
Nos finances et pour la conservation du parc, c'est une situation catastrophique. Nous avons perdu 90% de nos revenus pour l'année. Et bien sûr, notre plus gros risque, c'est le braconnage de rhinocéros. Certaines zones en sont en danger. Les équipes sont limitées par les conséquences financières de cette crise et cela offre une fenêtre d'opportunité pour les braconniers. Et puis, il y a beaucoup de gens dans le besoin à l'extérieur. Des familles désespérées qui veulent juste se nourrir. Donc, on pense qu'il y a aussi un risque d'augmentation du braconnage de la simple viande de brousse.
Avec l'annulation des vols internationaux et les restrictions de déplacement, le lodge de luxe du Maratabat, caché au cœur de la réserve, est désert. C'est pourtant en ce moment la haute saison pour les safaris. Le gérant Alex Burgess essaie de limiter les dégâts.
C'est sûr que l'on est en train de perdre une somme très importante en termes d'apport en revenus. Le rôle de notre équipe pour le moment, c'est de s'occuper des lieux pour s'assurer que tout est préservé et entretenu et pour faire en sorte que les actifs ne perdent pas de valeur. Mais on doit faire tout ça en diminuant les coûts.
D'après le Conseil mondial du voyage et du tourisme, le secteur contribue dans son ensemble à près de 8% du PIB sud-africain et fait travailler indirectement plus d'1,5 million de personnes. Le pays accueille chaque année plus de 10 millions de touristes. Selon Chedza Madzima, analyste chez Fitch Solutions, ce chiffre devrait être en baisse d'au moins 70% cette année. Une très mauvaise nouvelle pour l'emploi.
C'est un secteur clé car il est très intense en main-d'œuvre. Cela représente 9,2% du nombre total d'emplois dans le pays. Je pense que pour les deux prochaines années, les perspectives pour le tourisme sud-africain resteront très mauvaises. Et même si les frontières rouvrent, cela ne veut pas dire que le consommateur moyen aura suffisamment d'argent pour voyager.
Les plus petits acteurs qui reposent sur le tourisme local sont aussi très pessimistes. Des aides ont été débloquées par le gouvernement, mais Annie Pelser n'y a pour l'instant pas eu accès. Elle tient une maison d'hôtes qui emploie 6 personnes.
On sait que cette crise ne va pas être maîtrisée facilement. Les choses ne vont pas retourner à la normale de façon magique. Alors on peut tenir encore un mois ou deux. Nos banques nous ont accordé 3 mois de report de paiement pour nos crédits. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous avoir de très gros ennuis.
Les autorités n'envisagent pas de retour à la normale pour le secteur avant le début de l'année prochaine.
Claire Barjolès, merci beaucoup pour ce safari avec des morceaux de pangolin dedans. Nous filons retrouver les jeunes qui confient leur journal sonore confiné à Caroline Gillet. Vous vous souvenez d'Angela, hier, qui était rentrée en France retrouver sa famille en Macédoine. Et bien voici une histoire un peu similaire, une autre expérience, c'est celle de Nal, qui elle est de Corée du Sud. Elle aussi, elle a tout fait pour trouver un vol, rentrer chez ses parents quand le confinement a été mis en place en France. Elle a envoyé son témoignage via WhatsApp à Caroline et commence son récit avec son départ de Paris.
Le jour J arrive et c'est vrai que j'étais assez stressée parce que je n'avais pas de vraie protection bien solide. J'ai juste des gants et j'avais essayé de me fabriquer un masque maison, mais c'était vraiment pas très glorieux. Je suis sortie de mon immeuble avec ma valise et mes affaires, etc. Et là, je marche quelques mètres et il commence à pleuvoir des cordes. Je fais un trou dans mon gant sans faire exprès. Je me dis... Super, ça commence bien. Et je rentre dans la pharmacie toute trempée et je leur demande s'ils n'ont pas des masques par tout hasard. Même s'il y avait bien marqué en gros plus de masques disponibles. Et la pharmacienne, toute gentille, me dit que non, qu'elle est vraiment désolée. Elle me dit que les gants n'ont pas forcément d'utilité. Et là, elle me dit « Attendez-moi ici ». Et là, elle revient avec des masques et me les donne. Je pense que je lui faisais de la peine ou un truc comme ça. Une fois arrivé dans l'aéroport en Corée du Sud, tous les voyageurs arrivent devant 6-7 personnes alignées avec des tables et des téléphones face aux voyageurs. Et ces personnes nous demandent où est-ce que l'on compte faire notre quarantaine. J'ai dû transmettre le numéro de mon père pour qu'il les appelle en direct et vérifie bien l'adresse de la quarantaine. Mon père a pu venir me chercher à l'aéroport et me déposer chez eux pour que je puisse faire ma quarantaine chez eux, mais sans eux. Donc pendant 14 jours, je suis complètement isolée et je n'ai absolument pas le droit de sortir, même pas pour prendre l'air. J'ai dû également installer une application avec l'option « Toujours autoriser la géolocalisation » pour qu'ils puissent vraiment savoir où je suis. Donc pas le droit d'éteindre mon téléphone trop longtemps et je dois transmettre des informations sur l'évolution de ma santé en prenant ma température 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, et transmettre ces infos via cette application. À l'instant, je viens de recevoir un SMS pour m'avertir qu'un colis a été déposé devant ma porte. Donc je vais voir. Du coup, il y a un énorme colis. C'est un colis qu'on reçoit pendant la quarantaine. Il y a de l'algue, du riz, des nouilles instantanées. La base, des mouchoirs. Incroyable. On m'appelle ou on m'envoie un SMS tous les jours pour me rappeler que je dois rester chez moi. J'avoue que là, niveau vie privée, en France, ça passerait pas du tout. Mais en Corée, c'est une toute autre mentalité. Et vu que ça concerne seulement les personnes venant d'un pays à risque et que c'est temporaire, les Coréens ne voient pas ça d'un mauvais œil.
Merci, merci beaucoup Anal, qu'on retrouve demain pour la suite de ces aventures. Vous allez voir qu'il y a des histoires de cordes à sauter, de tests Covid et de plages coréennes. Tous les récits, bien sûr, sont sur la page Full Continental sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux de l'émission.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après, comme tous les soirs pendant cette crise du coronavirus. Bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir à tous.
Jean-Marc, le Chili vient de renouer hier avec les manifestations de rue suspendues depuis le début de l'épidémie. Et c'est pour vous un révélateur. La colère sociale est en train de réapparaître et pourrait bien s'amplifier. C'est votre monde d'après.
Oui, attention, la rue se réveille et ce n'est peut-être que le début. Hier soir, donc à Santiago, les émeutes ont commencé dans le quartier pauvre d'El Bosque, avant de se propager à d'autres zones de la capitale chilienne et de s'achever en concert de casseroles dans le centre-ville. Les barricades, les tirs de gaz lacrymogènes qu'on n'entendait plus depuis 2 mois sont de retour. Et un mot résume la colère, un mot projeté en lettres lumineuses sur l'un des plus grands immeubles de la ville, Hambre. La faim. Les plus pauvres des Chiliens n'ont plus rien à manger, plus d'activité économique, plus de revenus, plus de nourriture. La colère en revient aussi juste à côté, en Bolivie, Bolivie, où les partisans de l'ancien président Morales, contraints à l'exil avant la crise, bloquent les routes. Là encore, ce sont les plus démunis qui manifestent. Même chose en Colombie, où les habitants qui n'ont plus de ressources attachent des chiffons rouges à leurs fenêtres pour appeler à l'aide. Et depuis début mai, on voit la colère monter à nouveau également au Liban, où les manifestations ont repris, ou bien à Hong Kong, où rien n'est réglé.
Donc ce qui était là avant l'épidémie, Jean-Marc, est là pendant l'épidémie et même après.
Oui, mais en pire, la lutte contre le virus a d'abord mis entre parenthèses, on l'a vu, les manifestations, mesures barrières obligent, rassemblement impossible. Et maintenant, les effets en chaîne de l'épidémie creusent encore plus les écarts sociaux qui sont à l'origine de la plupart de ces mouvements qui ont secoué la planète l'an dernier. Bien sûr, les inégalités qui étaient là avant sont encore là, à Santiago au Chili, comme à Tripoli au Liban, mais ça va plus loin, ça se dégrade. D'une part, le virus se propage encore plus vite dans les quartiers démunis, en raison de la promiscuité de l'habitat, du manque d'infrastructures de santé. On le constate y compris dans nos sociétés, dans la communauté d'origine pakistanaise en Angleterre, ou dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis ou du Val-d'Oise en Ile-de-France. D'autre part, et surtout, l'arrêt de l'économie touche d'abord les couches sociales défavorisées, qui n'ont pas de bas de laine, pas de réserve pour tenir. Donc très vite, la faim, le désespoir peuvent s'installer. C'est une bombe à retardement. À l'inverse, les classes moyennes et bien sûr supérieures peuvent s'installer, j'allais dire, presque confortablement dans le télétravail. La pandémie, c'est un accélérateur, on le voit, de quasiment toutes les évolutions déjà en cours dans le monde, et ça va encore plus vite pour les inégalités sociales, donc il est inévitable que la rue se réveille.
Et donc la suite, c'est quoi ?
Alors le plus probable, c'est que ça se détériore encore, hein. Les effets de la récession vont se faire sentir de plus en plus dans les semaines à venir. Donc après, tout dépend de l'option retenue aussi par les pouvoirs en place. Option 1, appelons ça le Canadair. Les gouvernements qui ont les moyens s'endettent pour soutenir l'emploi, éviter l'explosion sociale. On arrose massivement pour éteindre le feu, en espérant que ça marche. C'est en gros la stratégie des pays de l'Union européenne. Vous en parliez tout à l'heure avec vos invités. Option 2, appelons ça le couvercle, la répression. Pour tuer dans l'œuf un redémarrage de la contestation, arrestation, censure, avec l'alibi de l'état d'urgence imposé par l'épidémie, stratégie à l'œuvre en Algérie, en Égypte, à Hong Kong, en Inde, où le pouvoir nationaliste profite de l'occasion pour chercher à briser la contestation. Sauf que le sentiment d'injustice est profond et qu'il peut ressurgir. Enfin, option 3, l'attente. On croise les doigts pour que ça tienne, mais ça peut exploser en émeute. Émeute sociale, émeute de la faim, en Amérique latine, dans une partie de l'Afrique, et même aux États-Unis, où 36 millions de personnes se retrouvent, on le sait aujourd'hui, sans emploi et sans couverture sociale. Bref, tout ça ressemble quand même à une collection de cocottes minutes.
Le Monde d'après, signé Jean-Marc Four. Merci beaucoup Jean-Marc. Évidemment, à demain, le 18-20, la suite, c'est le journal de Sébastien Paour. Et puis juste après, le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous, il est 19h.